Kees de Hoekenzand. Blijven inspireren. Quand on demande aux gens de croire en quelque chose, ils demandent en général des preuves, et en principe, plus grande est la valeur de ce que l'on propose, plus grandes sont les preuves que l'on exige, et c'est dans un sens normal, car les gens ne doivent pas être crédules, mais plutôt précautionnés quant aux choses qu'on leur demande de croire. Cette règle est également applicable à la Bible, car elle n'y fait pas exception. Quand on demande à quelqu'un de considérer la Bible comme étant la parole inspirée de Dieu, on demande des preuves de cette inspiration. On a le droit d'exiger cela, parce qu'un grand intérêt est en jeu. Beaucoup de choses en dépendent. C'est pourquoi la Bible, comme toute autre chose d'ailleurs, ne devrait être crue que si les preuves que l'on avance sont suffisantes pour arriver à convaincre quelqu'un de ce qu'il a parfaitement raison de placer sa foi en elle. En cherchant ces preuves, nous devons nous souvenir de ce que la Bible contient, ses propres preuves d'inspiration. Il n'est pas absolument nécessaire de consulter des archéologues ou d'autres savants, car dans son contenu se trouvent de nombreuses preuves de son inspiration. C'est pourquoi, dans cette deuxième leçon, nous allons nous donner pour tâche d'étudier les preuves internes d'inspiration. Il est évidemment profitable de prendre en considération les preuves externes de l'inspiration de la Bible. Et c'est ce que nous ferons dans les leçons suivantes. Mais pour le moment, attachons-nous à l'étude des preuves que l'on trouve dans la Bible elle-même. Peut-être est-ce là la meilleure manière de décrire cette leçon. La Bible se justifie elle-même, car nous croyons fermement que la Bible peut tenir bon devant n'importe quelle question ou investigation. La Bible se justifie elle-même, et si cela n'était pas possible, alors ça ne vaudrait vraiment pas la peine, en matière de foi, de croire en elle. Cependant, certains élèveront des objections. Est-ce que c'est acceptable? Ils diront, est-il logique, est-il raisonnable de compter sur ce que la Bible peut dire, alors que c'est précisément elle dont nous essayons de prouver la véracité? Nous disons que oui, car c'est logique, raisonnable. Car n'est-il pas normal de lui permettre de témoigner elle-même en sa faveur? Certains diront, on ne peut prouver l'inspiration de la Bible par la Bible elle-même. Sans doute, certains continueront à objecter en disant, on ne peut prouver l'inspiration de la Bible par la Bible elle-même. Tous les sceptiques qui ont combattu le livre de Dieu ont crié bien haut cette phrase. Voyons un peu si cette affirmation elle-même est raisonnable. Pourrions-nous l'appliquer à autre chose? Supposons qu'un jeune homme aille avec son épouse acheter une nouvelle voiture. Le vendeur ne négligera évidemment aucun effort pour décrire les meilleures caractéristiques du véhicule en mettant peut-être l'accent sur certaines d'entre elles. À présent, temps, le jeune homme demandera au vendeur de prouver ce qu'il affirme, sans toutefois utiliser la voiture elle-même pour le faire. Imaginez la surprise du jeune homme si le vendeur lui disait « D'accord, il y a une petite charrette là un peu plus loin, prenez-la pour faire une balade. » Il est évident que le jeune homme ne serait pas d'accord, mais le vendeur pourrait objecter « Mais vous ne voulez pas me laisser vous prouver les qualités de la voiture en utilisant cette voiture elle-même, alors autant prendre une charrette. » Cette histoire est évidemment exagérée, mais elle montre bien le ridicule de la chose. Oui, la Bible doit pouvoir se justifier par elle-même, et en fait, il serait insensé, sinon malhonnête, de ne prendre en considération que ce que la Bible a à dire sur elle-même pour prouver son origine divine. Nous allons le voir. Voici le plan de l'étude que nous avons choisi pour aujourd'hui. Il comporte, comme vous le voyez, quatre parties distinctes. Unité de la Bible, prophétie et accomplissement, témoignage du Christ, témoignage des autres. Tout d'abord, centrons notre attention sur l'unité de la Bible. Passons tout de suite à l'étude du premier point qui est, répétons-le, l'unité de la Bible. La Bible est un livre complexe. Nous pouvons même dire qu'elle est un ouvrage qui couvre de nombreuses années, de nombreux auteurs, de nombreux sujets, et même qu'elle comporte de nombreux livres. Mais voyons en détail ce que nous voulons dire par là. On dit que la Bible est le livre des livres parce qu'il est le plus éminent. Cependant, cette appellation lui est également donnée à cause du fait qu'elle est divisée en 66 parties ou 66 livres. La Bible est en fait une collection de nombreux ouvrages écrits par des auteurs différents, de nationalités diverses, dans des langues différentes et au cours de nombreux siècles. La Bible est la seule collection de livres qui peut être appelée un livre ou le livre. Malgré cette diversité d'auteurs, de langues et de siècles, la Bible forme un tout qui ne décèle aucune contradiction. Et sa merveilleuse unité est une des plus grandes preuves internes de son inspiration. Il est une autre idée que nous devons garder à l'esprit. C'est que les différents livres qui font la Bible ne sont pas inspirés pour la bonne raison qu'ils sont dans la Bible, mais plutôt qu'ils sont dans la Bible parce qu'ils sont inspirés. En d'autres termes, chaque livre constituant le livre de Dieu doit être à même de présenter ses propres preuves d'inspiration avant de pouvoir être considéré comme faisant partie de la parole de Dieu. Chaque livre fait partie de ce volume parce qu'on ne pourrait pas le laisser en dehors. Non seulement la Bible est composée de nombreux tomes, mais de plus ces livres traitent de nombreux sujets tels que lois, paraboles, aventure, histoire, poème, chant, proverbe, biographie, prophétie, folklore, prière et drame. Certains de ces livres pourraient être en fait classés comme étant des livres d'histoire, de loi, de poésie, alors que d'autres se composent d'un peu de chacun de ces sujets. Cependant, tout au long de ces 66 livres et de ces nombreux sujets, on peut distinguer un grand thème général. La Bible débute par l'introduction ou le commencement du péché dans le monde et se termine précisément par la destruction du péché. Entre le commencement et la fin de l'ouvrage, le thème de la Bible est le développement d'un vaste plan destiné à vaincre le péché. Quelqu'un a dit, le thème de la Bible tout entière peut être compris seulement à la lueur d'une idée ou d'un mot qui est quelqu'un. Quelqu'un vient, quelqu'un est venu, quelqu'un reviendra. Et bien sûr, nous l'avions compris, ce quelqu'un est Jésus-Christ. De même que les planètes de notre univers gravitent autour du Soleil, de même les innombrables vérités exprimées dans la Bible tournent autour de la personne du Seigneur Jésus. Bien que de nombreux sujets soient discutés dans ces 66 livres, jamais, même pas une seule fois, la Bible ne s'éloigne de son thème, qui est la rédemption de l'homme. On peut dire qu'environ 40 hommes différents ont contribué à la rédaction de la Bible. Ces hommes n'occupaient ni la même position sociale, ni n'exerçaient le même métier. Parmi eux, il y avait des bergers, des rois, des fermiers, des fabricants de tentes, des collecteurs d'impôts, des soldats, des pêcheurs, des prisonniers et même un médecin. Certains d'entre eux possédaient une grande instruction alors que d'autres, par contre, étaient pratiquement illettrés. Ces hommes n'étaient pas tous de la même nationalité et il est donc normal de constater que les différents livres n'aient pas tous été écrits dans la même langue. Il a bien sûr fallu de nombreuses années pour écrire la Bible. En chiffres ronds, on peut estimer que 60 siècles se sont passés d'Adam jusqu'à nous, 2500 depuis Adam jusqu'à Moïse, 1500 ans de Moïse à Jésus-Christ et environ 2000 ans de Jésus-Christ jusqu'à nous. Ce qui donne un total d'environ 6000 ans, mais c'est un chiffre tout à fait approximatif. De ces 60 siècles d'histoire, la Bible en couvre 41. Pour ajouter à la complication relative à ces nombreuses années, stipulons un autre fait. La Bible a été écrite au cours d'une période d'environ 16 siècles. Le premier livre a probablement été rédigé par Moïse au cours du 15e siècle avant Jésus-Christ, tandis que le dernier livre a été écrit par l'apôtre Jean vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Ça donne donc un total de 16 siècles pour la rédaction complète de cet ouvrage. Il est encore à remarquer que même si les différents écrivains avaient voulu comparer leurs notes, cela leur aurait été rendu impossible par la différence des siècles. Regardons encore. La Bible couvre 41 siècles de l'histoire. Elle a été écrite par environ 40 hommes différents qui, dans certains cas, habitaient loin les uns des autres et qui étaient également séparés par de nombreux siècles. Ces hommes écrivaient sur des sujets variés et ont rédigé 66 livres distincts. Regardons encore. La Bible couvre 41 siècles de l'histoire. Elle a été écrite par environ 40 hommes différents, qui dans certains cas habitaient loin les uns des autres, et qui étaient également séparés par de nombreux siècles. Ces hommes écrivirent sur des sujets variés, ont rédigé 66 livres distincts. Et pourtant, malgré toutes ces complexités, on ne peut trouver une seule contradiction dans la Bible. Elle représente non seulement une collection de livres, sans aucune dissonance ni contradiction, mais de plus, quand on rassemble tout ce que ces différentes parties ont pu dire, on s'aperçoit qu'elles se complètent fort bien et que tout s'imbrique dans un ensemble avec une parfaite unité. La Bible forme un seul écrit, un seul récit, qui commence par le début et se termine par la fin. Il commence par l'origine de l'être humain et se termine par l'annonce de sa destruction. Si la Bible était d'origine humaine, l'homme, avec toutes ses capacités et toute son habileté, devrait pouvoir être à même de la reproduire et même d'améliorer sa merveilleuse unité. Pourtant, on peut demander à trois personnes intelligentes qui ont été témoins d'un accident d'écrire ce qu'elles ont vu et même leur donner l'occasion de comparer leurs notes. On pourra s'apercevoir qu'elles ne peuvent le faire en parfaite harmonie. C'est pour cette raison que l'homme ne peut arriver à reproduire à nouveau la Bible. Elle n'est donc pas d'origine humaine. Qu'est-ce qui a fait que la Bible est comme elle est? La réponse, l'inspiration. Rien d'autre n'aurait pu la faire telle qu'elle est. Il fallait qu'il y ait une seule pensée, un seul auteur, un seul architecte pour guider les hommes qui ont écrit la Bible. Nous avons donc vu la première partie de notre plan d'étude. Nous allons étudier maintenant les prophéties et leurs accomplissements. Dans la Bible, on peut lire d'étonnantes prophéties qui ont été faites bien des années et parfois bien des siècles avant leur accomplissement. L'exactitude de ces prophéties ainsi que leur accomplissement sont des preuves indiscutables de l'inspiration divine de la Bible. La première prophétie que nous allons voir est celle de Noé, et qui se trouve en Genèse chapitre 9 et versets 25 à 29. Vous vous souvenez sans doute qu'après le déluge, Noé est devenu le père de la race humaine. En fait, il était le second père de l'humanité, puisque Adam en était le premier. De lui, par ses fils Sem, Chan et Japhet, descendirent tous les peuples de la terre. Quand le déluge prit fin, Noé et ses fils sortirent de l'arche. Ses fils et leurs enfants se répandirent sur la terre en produisant ainsi les principales races humaines que nous connaissons. Nous voyons ici une carte montrant où les fils de Noé se sont dispersés et comment ils se sont établis. Sem et ses enfants semblent s'être fixés dans une certaine région, alors que Cham contenta d'aller dans une autre. Ainsi, d'ailleurs, que Japhet. Sur ces fils de Noé et de leurs descendants,
propose une prophétie qui est relatée en Genèse chapitre 9, versets 25 à 27, et qui concerne l'avenir de ses trois fils et de leurs descendants. Dans ces prophéties se trouve une brève et très claire esquisse de l'histoire de la race humaine. Mais lisons maintenant cette prophétie dénouée dans la Bible. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende la possession de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Maintenant que nous avons lu cette prophétie, voyons chacune de ces trois parties. La première concerne Cham. Son père avait prophétisé, maudit soit Canaan, c'est-à-dire Cham, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Une étude approfondie des descendants de Shem ou de Cham semble indiquer qu'une malédiction s'est toujours attachée sur les nations ayant Cham pour origine. Le continent africain, les pays d'Égypte, la Phénicie et la Palestine, les villes de Tyr et de Sidon ainsi que Sodome et Gomorrhe ne sont que quelques noms familiers de villes et de pays d'origine chamétique. L'histoire de ces peuples est remplie de ruines et de destructions. La plupart des esclaves du monde provenaient des descendants de Cham. Noé prophétisa ceci concernant Sem. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Les descendants de Sem furent bénis dans le sens que Dieu prit providentiellement soin d'eux. Il plaça les écritures de l'Ancien Testament entre leurs mains et envoya finalement quelqu'un issu de leur race pour être le sauveur du monde, Jésus-Christ. L'Église que Christ a fondée a également débuté avec les descendants de Sem. Au sujet de son troisième fils, Noé dit que Dieu étende les possessions de Japhet. Cette prophétie sur l'avenir de la postérité de Japhet se révèle encore entièrement exacte dans son accomplissement. Japhet a eu plus de fils que ses autres frères, et les nations qui descendent de Japhet ont non seulement été les plus populeuses, mais les plus elles ont régné sur le plus grand territoire, elles ont été les plus prospères. Ces nations ont toujours été à l'avant-pointe du progrès des arts, des sciences, ainsi que du commerce. L'accomplissement de cette prophétie de Noé concernant la destinée de ses fils est une des preuves les plus certaines de la divine autorité de la Bible. Comment Noé pouvait-il savoir qu'une malédiction allait s'appesantir sur Cham, que Cham serait béni et que les possessions de Japhet s'étendraient? La réponse est, c'est à cause de la révélation plus l'inspiration. La prophétie suivante que nous allons examiner est celle de Moïse concernant l'avenir des Juifs. C'est une des prédictions les plus remarquables. Dans la première partie du 28e chapitre du livre de Deutéronome, Moïse informe Israël sur toutes les bonnes choses que Dieu ferait pour eux si, comme il dit, tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Dans le verset 15 du même chapitre, Moïse avertit, cependant, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La plupart d'entre nous sont conscients de la triste histoire d'Israël. Ils ont été infidèles et désobéissants vis-à-vis de Dieu. Et c'est pourquoi, comme le dit Moïse, la malédiction devait s'abattre sur cette nation. Le 28e chapitre de Deutéronome prédit la dispersion actuelle des Juifs sur toute la surface de la terre. Dans le même chapitre, leur servitude envers Babylone et Rome est prophétisée dans des termes qui ne laissent poser aucun doute. Nous n'avons évidemment pas le temps de voir dans cette leçon toutes les prophéties, mais nous voulons toutefois considérer certaines d'entre elles. Moïse dit à Israël, en général, que s'il n'obéissait pas à la voix de l'Éternel, une triste situation s'abattrait sur lui. Tu t'attendras en plein midi comme la l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Et Moïse continue de prophétiser sur l'avenir d'Israël en disant, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Ceux qui connaissent un tant soit peu l'histoire des Juifs se rendront compte que ces mots se sont réalisés en tout point. Une partie de cette prophétie s'est réalisée quand Israël a été emmené en captivité à Babylone. En commençant par le verset 49, Moïse prédit, toujours dans le chapitre 28, que Dieu dressera une autre nation contre les Juifs. Et il parle des horreurs qui en résulteront. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton roi et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. En continuant le même chapitre du livre de Deutéronome, nous pouvons encore lire « Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays, elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu te réduiras. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. » Encore dans le même chapitre, Moïse dit, « La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fée, sortie d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. » Et l'accomplissement de cette prophétie est bien connu. Les Romains, une nation éloignée, parlant une langue étrange, se levèrent contre Israël en 70 après Jésus-Christ. Les soldats de Rome ne firent aucun cas, ni des vues, ni des jeunes. L'historien Flavius Joseph, qui est né en 37 après Jésus-Christ, nous relate certains faits étonnants au sujet de la destruction de Jérusalem. Les mêmes ont réellement mangé la chair de leurs propres enfants. 1,240,490 juifs ont été abattus et 99,200 de ceux qui restaient ont été emmenés en captivité. Moïse continue en parlant de l'avenir d'Israël en disant « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. » Et nous savons bien sûr que les Juifs sont disséminés parmi toutes les nations de la terre et qu'ils sont oppressés et bafoués. On peut dire que les Israélites sont aujourd'hui les vivants exemples de l'inspiration de la Bible. L'auteur du livre d'Ézéchiel, ainsi qu'Ésaïe, prophétise sur l'avenir de l'Égypte, alors que ce pays était encore en une grande puissance. Ce pays était cependant prospère et florissant quand Dieu dit par le prophète, le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert. Et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, et là ils formeront un faible royaume, et il ne se lèvera plus au-dessus des nations. De nos jours, l'Égypte est un autre vivant exemple qui prouve l'inspiration divine des Écritures, et pourtant ces prophéties ont été faites environ 600 ans avant Jésus-Christ. Ce pays est maintenant une étendue désolée où seuls les monuments antiques témoignent de sa grandeur passée. L'existence des pyramides silencieuses, des temples à moitié écroulés et des anciennes villes désertes sont autant de preuves de l'inspiration des Écritures. Abraham était le père de nombreuses nations. Il était non seulement le père de la nation juive, mais également celui des Ismaélites. Il y a quelques instants, nous avons vu certaines prophéties concernant les Juifs. Étudions maintenant celles qui ont trait à Ismaël. Abraham et Sarah n'avaient pas pu avoir d'enfants. C'est pourquoi une concubine fut accordée par Sarah à Abraham, à la personne de Agar, sa servante. Cependant, ce n'était qu'un palliatif qui ne satisfaisait personne, et ce d'autant plus que Agar se mit à mépriser sa maîtresse dès qu'elle fut enceinte. Sarah ne pouvait le supporter et se mit à la maltraiter, ce qui fut la cause de la fuite de Agar. Un ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Dans le désert, elle lui dit, « Voilà, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. » Concernant Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar, une prophétie fut faite en Genèse, chapitre 16, versets 10 à 12. « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. Voici que tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et tu nommeras Ismaël. » Cet homme sera pareil à un âne sauvage, sa main se lèvera contre tous, et la main de tous contre lui. Il dressera ses tentes en face de tous ses frères. Notons en particulier le verset qui dit qu'il sera sauvage. Quelle magnifique description des Arabes qui sont en fait les descendants d'Ismaël. Non seulement Dieu dit à Agar, quel serait l'avenir d'Ismaël, mais de plus voici la voix de Dieu qui informe également Abraham du destin d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. La liste de ces princes est donnée par Moïse dans le 25e chapitre de la Genèse. Par des recoupements faits dans d'autres écrits, on retrouve également l'existence de ces 12 princes arabes. Comme il avait été prédit des descendants d'Ismaël, ils se sont multipliés à l'infini et de lui sont nés de grandes nations. Pour compléter ce que nous avançons sur l'inspiration au sujet des prophéties et de leur accomplissement, nous vous proposons de voir certaines prophéties indiscutables sur Jésus-Christ. Depuis Moïse jusqu'à Malachie, chaque prophète de l'Ancien Testament pointe l'index vers la venue du Messie, en qui la race humaine trouvera la rédemption. En fait, une véritable histoire complète de la vie de Jésus-Christ a été écrite plusieurs centaines d'années avant sa naissance. Quand nous réunissons les détails de toutes les prophéties concernant Jésus-Christ, nous pouvons véritablement construire la grande ligne de sa vie, ainsi que nombre de détails qui viennent s'y imbriquer, et avec une grande précision. Dans cette courte étude, nous n'aurons cependant, hélas, pas l'occasion d'en voir beaucoup. Plus de sept siècles avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe prédit d'une manière absolument claire le miracle de la naissance de Jésus. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel dans le récit de Matthieu sur la naissance de Christ. Au chapitre 1, verset 22, il est dit, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » L'accomplissement de cette prophétie, plus de 700 ans après qu'elle eut été faite, est une autre preuve interne flagrante de l'inspiration. Ésaïe prophétisa également à l'enfant nous aimé. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Parmi tous ceux qui sont passés sur la terre et qui l'ont béni par leur présence, Christ est le seul à qui ces titres peuvent être attribués avec justesse. Comment le prophète savait-il qu'une telle personne naîtrait un jour? La réponse est évidente, parce qu'il était un prophète que Dieu a inspiré. Les prophéties faites au sujet de Jésus-Christ sont innombrables dans le livre des psaumes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Chacune d'entre elles s'est accomplie avec précision dans le Nouveau Testament. Le 22e psaume a été appelé le psaume de la crucifixion. Certains ont dit qu'il existe 32 prédictions faites dans ce psaume et qui se sont réalisées sur le mont Golgotha. Nous attirons maintenant votre attention sur le 16e, 17e et 18e verset du psaume 22. Écoutez bien. « Car des chiens m'environnent, et une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. » Leur accomplissement peut se trouver dans le Nouveau Testament, en Jean chapitre 19, versets 23 et 24, où il est réellement dit que les soldats ont joué pour se partager ses vêtements et sa tunique. Les plus fameuses prophéties concernant Christ ont tout au moins ceux dont on se souvient le mieux, se trouvent sans conteste dans le 53e chapitre d'Ésaïe. Le temps qui nous est imparti, ainsi d'ailleurs que l'espace sur les photos, nous permettent que de lire quelques versets, hélas. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Continuons avec une autre prophétie sur la venue du Messie. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On ne peut lire cela sans voir défiler devant nous les scènes tristes que le prophète dépeint sur l'arrestation, le semblant du jugement, la crucifixion, et le triomphe final du Sauveur. Je suppose que vous voyez maintenant plus clairement que l'un des maillons de la grande chaîne de preuve de l'inspiration de la Bible est sans doute possible, celui des prophéties et de leurs accomplissements. Nous venons donc de voir le deuxième point et maintenant comme troisième étape de notre plan. Nous allons porter notre attention sur le témoignage de Christ concernant l'inspiration des Écritures. Nous devons avant tout souligner le fait, d'ailleurs remarquable, que le Seigneur a passa la plus grande partie de son ministère terrestre à expliquer et à exposer les Écritures de l'Ancien Testament, et que, pas une seule fois, il ne nous avertit de l'existence d'écrits non inspirés. Au contraire, nous pouvons nous apercevoir que son témoignage va à l'encontre de cette idée. Voyons maintenant quelques exemples de ce que nous avançons. Dans son fameux sermon sur la montagne, Jésus avait quelque chose à dire sur les Écritures de l'Ancien Testament. Il s'exprime ainsi. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le fait que l'accomplissement de l'Ancien Testament était plus certain que la continuation des choses telles que nous les connaissons place ces Écritures plus haut que les hommes auraient pu le faire, car ces Écritures ne peuvent être considérées autrement que comme étant d'origine divine. À nouveau, le Seigneur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. L'expression « la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes » était un usage chez les Juifs pour désigner l'ensemble de l'Ancien Testament. Ceci étant vrai, comment le Seigneur aurait-il pu employer de tels mots si une partie quelconque de ses écrits était non inspirée ou inexacte? Voici un exemple d'une des nombreuses fois où Jésus a condamné les pharisiens à cause de leurs agissements. Au verset 8 de Marc 7, il les accuse d'abandonner les commandements de Dieu. Dans le verset 9, il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Le Seigneur cite alors d'une manière précise les paroles de Moïse, qu'on peut trouver dans le 21e chapitre de l'Exode, ainsi que dans le 5e chapitre de Deutéronome. Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Notez qu'en parlant du commandement de Dieu, Jésus dit, Moïse dit. Dans ce passage du Nouveau Testament, Jésus cite le psaume 110 et le verset 36. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cette déclaration est attribuée à David. Comment a-t-il parlé? Tout simplement par le Saint-Esprit, comme le dit la Bible. Par conséquent, Jésus atteste ici encore l'inspiration des psaumes. Les scribes et les pharisiens voulaient voir Jésus faire un miracle, mais ils lui avaient dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le Sauveur prend ici l'histoire de Jonas pour préfigurer sa propre mort, sa propre résurrection. En voyant de quelle manière Christ emploie l'Ancien Testament dans ses enseignements, on s'aperçoit qu'il ressentait énormément de choses pour l'Ancien Testament. Jésus, bien sûr, savait que l'inspiration produisait une valeur fantastique pour les Écritures. Nous venons de voir brièvement le témoignage que Jésus rend des Écritures. Passons maintenant au dernier point, le témoignage des autres. Paul, en donnant ses instructions à Timothée, lui dit, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Quel glorieux témoignage de l'inspiration des Écritures. Elles sont toutes inspirées de Dieu et par conséquent suffisantes pour amener l'homme à faire toute sa volonté. Lisons ensuite ce que disait l'apôtre Pierre en 2 Pierre chapitre 1 et verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce verset est édifiant, ne trouvez-vous pas? Il nous informe sur le moyen dont la Bible n'a pas été aborté. Il n'a pas existé par la volonté de l'homme, comme certains critiques voudraient le laisser croire. À nouveau, on nous dit comment elle a été amenée à exister. Les hommes ont parlé parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous trouvons le sceau de Dieu sur sa parole. L'Ancien Testament foisonne de phrases telles que « L'Éternel parle, ainsi parle l'Éternel, la parole de Dieu fut donnée au prophète, Dieu dit ses paroles, etc. » Le livre de l'Exode contient 40 chapitres, et dans ces chapitres, il est dit 16 fois « Dieu a dit ses paroles ». Comme exemple de l'emploi de telles phrases dans l'Ancien Testament, lisons ce que dit le prophète Isaïe. Si vous écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. Le verset 1 de 2 Samuel dit ceci. Voici les dernières paroles de David. Celui-ci dit avant de mourir dans le verset 2. L'Esprit de l'Éternel parla par moi, et sa parole est sur ma langue. Peut-on tirer une conclusion plus claire? David dit, en fait, Dieu a parlé par moi. Il a employé ma langue et j'ai parlé et écrit comme il me le disait. Comme dernier témoignage de l'inspiration divine des Écritures, faisons maintenant appel au prophète Jérémie. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te donne. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Relisons cela. Je mets mes paroles dans ta bouche et non mes pensées. Oui, les preuves internes devraient suffire pour nous convaincre de l'origine divine de la Bible. C'est pour ces raisons que nous mettons toute notre foi dans ce livre. Nous croyons qu'il est infaillible, inspiré de Dieu et par conséquent qu'il est là pour nous guider sûrement dans notre conduite, dans cette vie. Il est une route sûre pour une vie de bonheur dans le royaume qui se trouve au-delà de la tombe. En Matthieu chapitre 24 et verset 35, le Seigneur dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » C'est à la fois un avertissement à donner à ces paroles toute l'importance qu'elles doivent avoir dans la conduite de notre vie spirituelle et une invitation à nous y conformer. Nous vous invitons maintenant à voir la prochaine leçon qui sera l'archéologie et l'inspiration de la Bible. Merci pour votre présence.